partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Voici le premier volet d'une émission sur le Québec, émission proposée par Axel Mauger. Cette chronique est basée sur son livre « Le privilège du français » paru aux éditions Humanitas à Montréal en 2007. Le premier volet de cette émission sur le Québec s'intitule « La reconquête du français au Québec ».
Un peu d'histoire. Quelle aventure étonnante que celle de la langue française et de la francophonie au Québec et au Canada de 1608 à aujourd'hui. Presque quatre siècles se sont écoulés depuis l'installation permanente des premiers Français devenus aujourd'hui des Québécois et des Canadiens, lesquels ont fait preuve d'un fort esprit de résistance dans des conditions souvent plus que difficiles. Je vous suggère de lire un livre sur Ronald Craik, Nos cousins d'Amérique, chez Payot en 1988. Au cours de ces quatre siècles, la langue française a échappé d'abord à la volonté assimilatrice des Britanniques, ensuite au vif désir d'annexion du grand voisin américain et enfin à la domination de la bourgeoisie anglo-canadienne. Tout au long de ce continuum historique, quatre périodes marquantes ponctuent le combat de ce peuple courageux. La première s'étend de 1608 à 1760. La langue française y possède alors un statut royal, ce qui encourage les habitants à semer sur une bonne partie du territoire américain actuel de nombreux noms de lieux français. Je vous conseille la lecture de Pierre Magret, Découverte et établissement des Français dans l'Ouest et dans le Sud de l'Amérique septentrionale, 1614-1754, publié à Paris de 1879 à 1888 en 6 volumes. La deuxième période commence, elle, avec la conquête, c'est-à-dire à partir de 1760 et dure à peu près jusqu'en 1850. À cause de l'expansion démographique étonnante des Canadiens français et du danger expansionniste américain, les Britanniques n'arrivent pas, en dépit de multiples tentatives, à les assimiler. Le contexte permet aux Canadiens français de participer non seulement aux jeux politiques, mais encore d'obliger les anglophones à redonner des garanties et des droits à la langue française. Aussi, grâce à ses farouches partisans, cette langue se développe-t-elle même dans un climat d'adversité ? Elle est à l'occasion desservie par une partie de la bourgeoisie locale qui a attrapé la fièvre de l'anglomanie. Et on peut lire sur le sujet Claude Follen, L'Amérique anglo-saxonne, de 1815 à nos jours, aux Presses universitaires de France, 1969. La troisième période s'étend, elle, de 1850 à 1960, même si, en 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique a donné en théorie aux Français un véritable statut juridique et politique, cet espace pâtit de l'essor très vif du capitalisme anglo-canadien, voire anglo-américain, dès lors, son dynamisme et sa créativité propre se réduisent. Comme l'ont écrit sans ambiguïté certains historiens, à la joie de l'union de 1867 succède rapidement la désillusion. Aussi, jusqu'en 1950, la langue française s'affaiblit-elle tout en essayant de résister ? Elle n'a en effet pas assez de force pour s'affranchir, se libérer de l'autre espace linguistique qui pèse sur elle. On peut même aller jusqu'à parler pour le français d'une seconde défaite après celle plutôt humiliante et désastreuse de 1760. En vérité, la francophonie québécoise revient de loin tout au long des 18e et 19e siècles. Malgré son énergie, elle a été puissamment contenue. D'abord en Acadie, Nouvelle-Écosse aujourd'hui, où il y a eu l'épisode cruel du Grand Dérangement. Le nombre de colons français commençait en effet à inquiéter les Anglais. De 2100 en 1713, ils atteignaient le nombre de 14 000 en 1750. On peut s'intéresser à ce sujet en lisant, en allant pianoter sur le site Centre de recherche d'histoire nord-américain, Université de Paris 1, l'émigration française, étude de cas, Algérie, Canada, États-Unis, Paris, publication de la Sorbonne 1985. Ensuite, les Anglais empêchèrent les Canadiens français de s'installer dans l'ouest du Canada. Aussi, pour trouver du travail, ceux-ci durent-ils s'exiler en Nouvelle-Angleterre, où ils furent avec le temps en partie assimilés. On peut donc dire que de 1763 à 1950, les francophones du Québec et du Canada devinrent dans l'ensemble des citoyens de deuxième classe sous domination anglaise. Durant cette période, l'expression « nègre blanc d'Amérique » fut utilisée pour désigner les Québécois qui occupaient des tâches subalternes. Pendant des décennies, au Québec, plusieurs services essentiels ne pouvaient être obtenus qu'en anglais. On répondait sèchement aux récalcitrants « speak white », c'est-à-dire « parle blanc ». Tous ceux qui voulaient monter dans la hiérarchie sociale avaient intérêt à passer du côté anglophone. En fait, jusqu'en 1950, le climat oppressif fut réel et on se demande parfois comment la population québécoise a-t-elle pu être aussi docile. Pour essayer de comprendre cette réalité, n'oublions pas que la vie était dure, l'hiver long, les liens avec la France très faibles. Il faut insister sur l'isolement très grand de cette population, la Seconde Guerre mondiale, qui amènera la prospérité et le plein emploi, masqua encore un temps les problèmes de domination. Durant ces années de grisaille, certains, et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense, s'employaient cependant à favoriser une prochaine libération d'un peuple bien seul. Nous arrivons là, à la quatrième période. D'aucuns savent que la mort en 1959 du Premier ministre Maurice Duplessis marque la fin d'une époque très conservatrice, tandis que l'élection du libéral Jean Lesage donne le coup d'envoi à ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Un véritable renouveau s'empare de la société québécoise à partir des années 60. Dès lors, la mobilisation de la société québécoise s'accroît. Elle profite largement, ce que l'on ne signale pas toujours, de la période d'émancipation liée à la décolonisation. Le « Vive le Québec libre », lancé en 1967 par le président français, il faut lire Alain Perfit, « C'était de Gaulle », troisième tome chez De Fallois Fayard en l'an 2000, lancé en 1967 par le président français, déplaît évidemment à la partie anglophone, mais accélère le rythme des revendications sur le désir de souveraineté. Si bien que les résultats non négligeables obtenus lors du premier référendum en 1980 aiguise les appétits en faveur de l'indépendance. En s'appelant désormais Québécois, à partir du début des années 70, les anciens Canadiens français refusent de cautionner davantage l'état d'infériorité économique et sociale de leur société et font ce qu'ils peuvent pour que la bataille en faveur de la langue française soit au centre des débats. Et je pense à un livre que je vous conseille, « Le français au Québec », sous la direction de Michel Plourde, Montréal édition Fides et les publications du Québec en l'an 2000. Pendant que les uns refusent la politique de bilinguisme, les autres plus ambigus, les partisans du « jouol », c'est-à-dire la déformation du mot « cheval » en canadien français, donc le « jouol », font de la résistance spectacle en se moquant parfois du français de France et en utilisant non sans excès ce même « jouol », résultat d'une langue colonisée en véritable décomposition. C'est Gaston Miron, le grand poète, qui aidera à clore le débat en déclarant « Pendant que vous vous demandez s'il faut dire « cheval » ou « jouol », c'est le mot « horse » qui passe. » Le grand poète du Québec a compris que certaines officines avaient tout intérêt à diviser les Québécois. Pour continuer à régner, il est en effet nécessaire de brouiller les pistes. À partir des années 60, la modernisation du Québec s'accompagna d'une ouverture générale sur l'extérieur et d'un rapprochement avec la France. Le Québec ouvrit des délégations générales, notamment à Paris, dès 1961. La commission permanente franco-québécoise fut mise sur pied pour gérer les projets liés à l'éducation. On entra aussi dans de vives périodes de tension entre Ottawa, Québec et Paris, après le voyage de De Gaulle, lequel s'était rendu compte de l'asservissement de la province à l'endroit du Canada anglais, la France chercha à satisfaire le désir du Québec d'obtenir un statut international. Je vous conseille de lire un livre sur le sujet, Philippe Séguin, « Plus français que moi, tu meurs », Albin Michel, VLB édition, l'an 2000. Il est bon de rappeler que le 17 février 1969, à Niamey, en Afrique, 28 gouvernements francophones acceptèrent le principe de la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Malgré ses débuts modestes, cette agence ouvrait un nouveau chapitre dans les relations franco-africaines, canado-québécoises, franco-canadiennes et franco-québécoises. Au début, elle concentra surtout ses efforts sur les questions linguistiques et culturelles. Très vite, la volonté de se tourner vers les actions multinationales se heurta au mécanisme huilé des relations bilatérales entre États. Toujours pragmatiques, Canadiens et Québécois utilisèrent la francophonie en Afrique pour décrocher des marchés. Aussi, la francophonie naissante se développait-elle tantôt de façon harmonieuse, tantôt sur fond de rivalité et d'ambiguïté, n'empêche que dans bien des cas, les Québécois servirent d'aiguillon à une francophonie qui avait un réel besoin d'être dynamisée. Nous racontons une partie de cette histoire dans trois de nos livres qui reçurent un très bel accueil. Je pense à « La francophonie en direct », tome 1, « L'espace politique et culturel », tome 2, « L'espace économique Québec, documentation de la langue française 1987 » et toujours d'Axel Mauger, « Le roman de la francophonie », Jean-Michel Place, éditeur, Paris, édition Humanitas, Montréal, 1993, donc deuxième édition. La francophonie se musclant gentiment, le temps des sommets des chefs d'État arriva. Le premier sommet vit le jour les 17 et 18 février 1986 à Versailles, grâce à François Mitterrand. 41 pays et gouvernements étaient représentés. Dès lors, la francophonie de culturelle devint de plus en plus politique. Aussi, grâce aux différents organes de la francophonie, le Québec put-il jouer un rôle accru en bénéficiant d'un statut privilégié au sein de l'agence. Au Québec, c'est, ne l'oublions pas, entre 1969 et 1974 que les premières lois linguistiques furent adoptées, notamment la loi 22 qui a fait du français la langue officielle de la belle province. Mais c'est surtout la charte de la langue française, connue sous le nom de loi 101, qui, en 1977, permit aux Français de devenir la langue officielle, la langue normale et habituelle de toutes les activités publiques. Bref, un peu plus de deux siècles après la conquête et l'abandon forcé du Canada par la France, une partie des forces vives de la société québécoise continuait à vouloir s'épanouir en français. Je pense à un livre tout à fait intéressant, le livre de Madame Anne Légaré, « Le Québec, otage de ses alliés », VLB éditeur, donc Montréal, 2003. De même, grâce à un travail acharné de 1970 à aujourd'hui, les Québécois ont su gagner beaucoup de terrain dans le domaine économique. Durant cette période de renouveau, les allophones ont progressivement compris que leur intérêt était de fréquenter l'école française, ayant aujourd'hui conforté la légitimité de sa langue, l'État québécois respecte scrupuleusement les droits des minorités et des communautés. »